Radio Sufi. Radio Sufi.
Kavanagh.
Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, François Cavanagh. Cela pourrait se raconter comme un conte de fées, un conte de fées qui serait bête et méchant. Il y avait une fois un hebdomadaire appelé Harakiri. Il n'arrivait pas à plaire au pouvoir en place, aux instances officielles, comme on dit. Alors, agacé d'incompréhension, il préféra pousser un jour, en première ligne, un petit prince héritier prénommé Charlie. Et c'est ainsi que Charlie Hebdo naissait. Ce fut un événement, c'est encore pour beaucoup de journalistes un événement, c'est je crois une autre manière de faire du journalisme, et c'est également faire la preuve que l'on est indiscipliné, que l'on manque de respect et que l'on est un peu insolent. François Cavanagh, vous êtes l'inventeur, le père de ce prince héritier, de ce Charlie Hebdo, et vous-même indiscipliné.
Non pas tellement, pas spontanément, je vais dire pas par goût, ni par... Ainsi, c'est pas délibéré. Il se trouve que quand on veut rester dans la logique des choses, on se trouve en contradiction avec la logique des gens. Et on est automatiquement indiscipliné. Alors, pour être discipliné, il faudrait être en contradiction avec la logique des choses.
Quelle idée vous faites-vous de ce que vous avez inventé, c'est-à-dire de Charlie Hebdo? Comment voudriez-vous que ce journal soit reçu par les gens? Bon, il est déjà reçu, il a sa clientèle. Mais les autres se demandent ce que vous voulez prouver, ce que vous voulez dire, et certains pensent, parfois, que vous allez un peu trop loin.
D'abord, m'en attribuer la paternité, à moi tout seul, c'est
une équipe
d'honneur, c'est bien, oui. C'est une équipe. Mais depuis le début, on est une équipe, et à... avec peu de changements, on a toujours une équipe. Il y a eu quelques apports, mais pas tellement, etc. Ensuite, ce que les gens en pensent, on n'y a pas à en penser tellement loin. On le prend, on le lit, et il n'y a rien de plus que s'il est écrit ou dessiné dedans. Il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas à lire entre les lignes.
Vous n'appartenez à personne.
Absolument pas.
Si vous deviez appartenir à quelqu'un, ce serait à qui? En dehors de vous-même.
Ah oui, mais si c'est en dehors de nous-mêmes à personne.
Moi, il y a cette date, et je crois que c'est le 3 février 1969, c'est la naissance de Harakiri, qui deviendra donc plus tard Charlie Hebdo. Et déjà, vous magnifiez l'insolence et le respect, c'est-à-dire l'irrespect. Et c'était une nature que vous aviez en vous, vous le sentiez depuis longtemps, car vous avez commencé comment, François Cavanagh?
Écoute, c'est une nature, il faut le croire, finalement, obligé de l'admettre. Moi, tout ça me semblait tout naturel. J'ai jamais vu que je sois spécialement irrespectueux ou anticonformiste. Je n'avais jamais eu conscience, ni ça n'a jamais été délibéré. Finalement, je me rends compte que moi et mes amis, on est la plupart du temps en porte-à-faux. Alors, c'est assez bizarre, ça me fait tout drôle. On se trouve être anticonformiste sans l'avoir jamais cherché. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'immense majorité des gens qui sont non conformes. Et ceux qui essaient d'être conformes, c'est ce que j'appelais tout à l'heure une certaine logique des faits, quoi, si tu veux. Cela se trouve être des anticonformistes par rapport à monsieur tout le monde. Ils n'ont pas fait exprès, tu sais. Anticonformistes, ça ne se fabrique pas.
Vous avez l'impression d'occuper une place tout à fait à part dans la presse française?
Oui. Et ça m'ennuie.
Pourquoi ça vous ennuie?
Parce que toute la presse devrait être comme ça. Le fait qu'on soit comme ça, que nous qui y agissons simplement suivant ce que nous estimons ce qui est bien, quoi, ce qui devrait être, enfin, on ne s'est pas posé la question, on ne cherche pas à faire quelque chose qui soit par rapport à quelque chose d'autre, différent ou ce que tu veux. Il se trouve que sans l'avoir cherché, on est différent, c'est donc que les autres ne sont pas normaux.
Mais au départ, vous aviez quand même des objectifs.
Écoute, là, il faut faire l'histoire. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as fait une petite confusion. Je dis tu, excuse-moi, j'ai une habitude.
Non, je n'ai pas
j'ai un mal de chien, hein, aux gens, c'est plus fort que moi. une petite confusion. C'est dit qu'en 69, c'était né à Harakiri. Non, Harakiri est né en 1960.
Oui.
Il était mensuel à ce moment-là. Et c'est là qu'il a vraiment pris son temps. C'est là qu'est né ce qu'il faut bien appeler l'esprit Harakiri, puisqu'il paraît qu'il y en a un. Il y en a un. Qu'est né ce... que s'est mis en forme cet anticonformisme qui s'ignorait, qui ne voulait même pas en être un et qui en était un quand même. C'est là que, avec Georges Bernier et deux ou trois autres gars, dont Fred, puis Topor, Reiser, et très vite Volinsky, on a fondé un journal qui s'est vraiment dessiné. Je dessinais dans les journaux. Je, comme tout le monde, comme des femmes gars, j'avais envie de faire de l'humour. La seule façon d'en faire, c'est du dessin. L'humour écrit, tu sais. Bon. Et la seule façon de faire des dessins, c'est dans la presse hebdomadaire. Alors, avec des femmes gars, qui ont débuté à peu près en même temps que moi, par exemple Santé, Bosque, peut-être sur des gens comme ça, on se rencontrait avec nos petits cartons de dessin sous le bras, on en plaçait plus ou moins. J'avais des lancers qui en plaçaient plutôt moins. Enfin, j'en vivais. Et des tas d'autres en vivaient comme moi. Sans faire de grandes étincelles, mais ça allait. Et en suivant son petit nombre de chemin, tu vois, on savait qu'au bout de 2, 3, 4 ans, tu acquérais ta place, tu finissais par avoir ton nom en gros dans
un quotidien. Oui,
si tu veux. Et peut-être dans un quotidien, quand tu finissais par vivre très convenablement de ce métier.
Oui, à condition d'être déjà installé, d'avoir un nom. Le par rapport là. À un quotidien, par rapport à un hebdomadaire.
Non, mais ou bien tu es complètement tocard.
Oui, il faut avoir du talent là-bas.
Ou bien, n'exagérons rien. Ou bien tu as une petite tournure d'esprit, tu as choqué le truc, disons, Bellus, si tu veux. Enfin, il est mort, alors, ben, tant pis, il est d'accord. Enfin, Bellus, voilà le type même du dessinateur qui n'est pas un idiot, qui n'est pas une lumière, qui a compris le petit machin. Qui s'est fait une personnalité, c'est-à-dire il dessinera toujours la même petite personne, et puis ça y est, sa place est faite. C'est un gars qui, pour nous, si tu veux, c'était le symbole de la réussite, tu vois. Donc, en suivant, c'était bien amorcé, ça marchait, question de temps, des gars qui ont édité en même temps que moi, et qui m'ont dit d'en placer même moins que moi à l'époque, vivre confortablement maintenant avec ça.
Mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à tout dire dans un dessin.
Et ben voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand on dessine, si on a un tempérament un peu, disons, un peu exigeant, on a envie de dire des tas de choses. L'humour, tu vois, ça se fait pas simplement en dessinant, on va faire rire, ça se fait à partir de certaines choses qu'on a observées, qu'on a vues, qui vous gênent, qui vous agacent. Si tout allait bien, si les gens sont portés de façon idéale, il n'y aurait pas de motif à l'humour. Je suppose que dans une société idéale, l'humour disparaît. L'humour ne peut...
Il sera remplacé par quelque chose quand même.
Ah oui, j'en sais rien, mais alors là ça se met...
Par le nom de l'humour, peut-être.
peut-être. En tout cas, tel que le monde est, et tel qu'il a été depuis qu'il y a des humoristes et qui humorisent, l'humour est toujours né du choc entre ce qui devrait être en principe et ce qui est en réalité, et en confrontant les deux, et en voir sortir l'absurdité du réel, si tu veux. Hein, c'est l'humour du genre de Molière pour nous en tenir à lui. On va pas remonter Aristophane, que j'ai jamais lu, et toi non plus d'ailleurs. Enfin, ça fait bien de le citer. Donc, si Navarre fait rire, c'est parce que dans son comportement, il y a des trucs complètement absurdes par rapport à ce qui devrait être un comportement normal.
Alors un dessin fait rire, mais ce qui fait rire plus encore, c'est une série de dessins. C'est une histoire racontée.
Ah, c'est un autre système. Je crois qu'avec ça, on y parvient mieux, oui.
Avez-vous l'impression, François Cavanna, de dire beaucoup plus de choses dans vos chroniques écrites que dans les dessins?
Oui.
Les mots, donc, sont plus forts que le trait et que le mot.
Ah, parce qu'il faut rouler la lame, c'est pas dire ça. Me conviennent mieux. Ouais. Genre, me conviennent mieux à moi, c'est tout. Ça. C'est son tempérament. Mais je renie pas le dessin. C'est la mort dans l'âme que j'ai dit cesser de dessiner. Tu vois? Parce que, on en vient, c'est ça.
Enfin, cesser de dessiner, ça n'est pas tout à fait vrai. Parce que, dans l'un des derniers albums, Le con se surpasse, très beau titre, hein. Mais dans ces cas-là, le con, ce n'est pas péjoratif, enfin, c'est l'homme et c'est une manière de se moquer de nous-mêmes.
C'est ça.
Hein? Mais là, il y a des dessins. Il y a une galerie de dessins.
Oui.
Et à certains moments, même c'est le texte qui accompagne le dessin.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais là, tu vois, je ne dessine plus guère que comme ça, dans les marges, tu vois, dans les marges de ce que j'écris parfois, dans le mensuel, dans Harakiri. Voilà, puisque dans le dos, je ne dessine plus. Et ayant fait un texte, je me rends compte que c'est un peu sec comme ça, des pages toutes noires, alors il faut quelque chose pour réveiller un peu. Et dans les marges, je gribouille des trucs. Tu vois. Et c'est ce que j'appelle des dessins et des illustrations. Ça vient en contrepoint, ça ne répète pas ce qui est dit dans le texte, ça va dans le même sens, ça apporte quelques petites précisions.
Lorsqu'on regarde certains noms comme Reiser, comme Volinsky, comme Topor, on s'aperçoit quand même que ces gens-là sont allés très loin ensuite. Et ils ont même abandonné le dessin, sans l'abandonner, pour se diriger du côté de la peinture. Prenons Topor. C'est devenu un grand artiste.
Est devenu.
Il l'était.
Topor a toujours été.
Oui, mais on ne le savait pas.
S'il ne le savait pas,
c'est peut-être pas lui-même.
Peut-être ne le regardait pas. Si. Mais si on a toujours
conscience
de ce qu'on est. La fausse modestie est très dangereuse. Et la fausse modestie est autant plus dangereuse qu'elle est vraie. La vraie fausse modestie, c'est épouvantable. Je suis certain que Topor a pu avoir conscience en soi, mais il savait ce qu'il valait et il savait ce dont il était capable. Il est resté un graphiste pur. Il écrit aussi Topor. Mais quand il écrit, il écrit. Quand il dessine, il dessine. Ça n'a rien à voir. Et dans ses dessins, on ne parle pas. Hein? Il n'y a même pas de l'idée, il n'en est rien. Ça. Quant à Volinsky et à Reiser, eh bien eux, c'est, en fait, les, ont évolué. Au début, c'était peut-être l'époque qu'ils voulaient aussi. Ils faisaient du dessin sans parole, tu vois. Du dessin où absolument le trait, la situation devait parler par elle-même, sans qu'on ait à mettre un ballon dans la bouche du type ou à mettre même un titre dessous. J'ai passé par cette période-là aussi, le fond d'Arsène Laractivo en était là, le sans-parole était à ce moment une réaction contre le dessin qui passait partout dans les hebdomadaires de cette époque, le dessin bien français, avec un dialogue. Le sans-parole, certainement venu sous l'inspiration anglo-saxonne, j'ai pas envie de fouiller l'histoire, mais ça nous paraissait merveilleux, c'était digne, c'était phlegmatique, c'était, comment te dire, c'était vraiment le coup de poing dans la figure aussi, mais sans expliquer, sans clin d'œil, sans prendre le lecteur par la main. On faisait du sans-parole, on en faisait à tour de bras, on avait ça. Et puis, comment te dire, l'évolution s'est faite toute seule. À aucun moment il n'y a eu dessin de mettre un petit peu de ballon, de mettre tout ça, c'est fait tout seul. Je dirais même qu'au début c'était du dessin séparé. Du dessin séparé sans parole est devenu de, je peux dire de la bande dessinée, hein, c'est pas ça. Est devenu du dessin syncopé, du dessin de.
Aussi une histoire.
Du dessin. Oui, une histoire, voilà, c'est ça. Au lieu que le dessin unique, le dessin tout seul, humoristique, te mettait dans une situation, te laissait le temps d'imaginer ce qui allait précéder ou ce qui allait suivre, tu vois, là, on te détaillait le truc. Non pas pour te faciliter le boulot, mais parce que détailler le truc te permettait de dire autre chose, d'aborder un autre genre d'histoire, un autre genre de suspense, de surprise pour le lecteur. Et ce dessin-là, puisque du dessin, auparavant la bande dessinée était elle aussi un genre méprisé, tout comme le dessin qui parlait. Alors, se mettre à partir du dessin unique, à le décomposer, à en faire une suite, tu vois, enfin, voilà le bon mot, une suite dessinée, oui, oui. Plutôt qu'une bande. Je parle des dessins genre Reiser, Volinsky et d'autres, enfin, c'est là où nous avons été vraiment les pionniers à Rakiri. C'est des suites. Et cette suite qui s'était faite un peu malgré nous, parce qu'on y répugnait, tu comprends, on sentait que mettre des dessins d'un côté des autres, c'était tombé dans la bande dessinée, ce tabou-là étant tombé de lui-même, d'autres tabous eux-mêmes se sont mis à faner et à sécher sur leur tige, comme par exemple l'interdiction tacite de les faire parler. Et les gens se sont mis tout doucement à parler, comme dans les mondes du savoir des ballons. Mais alors, pas n'importe quel ballon, enfin, tu vois, le minimum de mots, et strictement les mots, parce qu'il faut, qui vient là exactement au moment où vous...
Le mot choisi, le mot vrai.
Avec le ton qu'il faut, avec la ponctuation qu'il faut, la sobriété extrême, et la précision du langage, et que ça a donné des résultats, et que ça a donné ce qui est maintenant, rempli les fanzines, la presse qu'on a appelée underground, et qui est bien, ce que je crois maintenant, est la presse actuelle, et tout au moins ceux qui n'adoptent pas ce genre-là sont des sujets, sont des gens d'hier.
C'est la presse de demain.
Oui, même d'aujourd'hui.
Même l'actualité, on pourra la raconter.
Bien sûr,
comme ça.
Mais bien sûr, mais tout.
Même dans les quotidiens.
Oh, je comprends.
On peut penser à un journal dans une dizaine d'années, un grand journal du matin ou du soir, qui paraîtra avec des dessins qui raconteront l'événement de la veille.
Bien sûr. Pas uniquement avec ça, mais avec une très grande place faite à ça. Pardon.
Et on en revient en fait à ce qui était autrefois, parce que le dessin a plus d'importance qu'avant, et autrefois, lorsqu'on voulait raconter une histoire, nos ancêtres, ils la dessinaient sur les murs, ce que tu appelles toi les farouches époques.
Oui, oui, mais alors là tu comprends, on tombe un peu dans le sujet bateau, nous voilà en pleine historique de la bande dessinée, déjà tout à l'heure tu m'as fait tomber dans le grand piège, je vais me mettre à expliquer ce qu'est l'humour. Et je me suis surpris, hein, Perron et là-dessus. Et voilà maintenant que l'homme sert.
Je crois que...
la grande fresque.
Non, mais lorsqu'on parle de Harakiri, lorsqu'on parle de Charlie Hebdo, lorsqu'on dépasse les mots, lorsqu'on dépasse les intentions, et lorsqu'on a oublié que c'est au-delà ou en deçà de la méchanceté, on s'aperçoit simplement qu'il y a dans tes rangs, dans vos rangs, des hommes en bonne santé.
Eh bien, c'est exactement le mot.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé?
Être en bonne santé, eh bien, c'est ne pas avoir trop de coins noirs, de points poussiéreux, tu vois, dans l'esprit. Des coins où on n'ose pas aller. Ou tout au moins, si on en a, on sait qu'on les a. Et mon Dieu, on n'en fait pas un mot. Et en tout cas, on les regarde en face. Ces coins noirs, appelons-les des tabous, si tu veux. Et quand on réussit à en avoir le minimum, on est en bonne santé. Moins on en a, mieux on se porte. Je crois que c'est essentiellement ça. Par exemple, tu vois, hier soir, on était en train de boucler l'hebdo qui va paraître demain, qui est grand vente demain. Tous les lundis, c'est le bouclage. C'est un moment très dur parce qu'on vient de passer 48 heures à faire notre petit boulot. En général, la nuit est passée, la nuit précédente est passée en grande partie, on est assez crevé. Et alors se présente le boulot final, c'est-à-dire que toute la matière est là, réunie, chacun met son truc, et il y a des grandes options quand on parle en langage académique, c'est-à-dire la couverture,
le titre
de la semaine, mais ça va ensemble, tu comprends? Mmh. La couverture, le titre, c'est un tout, ça se trouve du même genre. Et puis, d'un coup aussi une page qui s'appelle « Les couvertures auxquelles vous avez échappé cette semaine ».
Parce que toutes celles les couvertures que vous aviez envie de faire.
Mais c'est réellement une couverture qu'on a refusée. Oui. Tu vois, qu'on a cherché en commun, qu'on a refusé en commun. Mais qui ne sont pas pour mauvaises pour autant, puisqu'on les a...
Alors que vous avez refusé pourquoi? Parce que vous faites de l'autocensure?
Bien sûr. On les a refusées parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. C'est tout, tu sais. Pas assez bon sur le plan de l'efficacité. Il n'y en a pas d'autres.
Par exemple, demain matin, quel sera le titre de Charlie Hebdo? On va être surpris peut-être.
Mais je m'en rappelle plus.
Alors,
je m'en rappelle plus. C'est formidable. Si, attends. C'est adopter une Vietnamienne, voilà. C'est ça. Faites une bonne action, adopter une Vietnamienne, et puis tu vois, un gros pépère. Sérieux et tout, avec une mignonne paix. Et adopter une pute vietnamienne, pour ça j'ai oublié le mot essentiel. adopté une pute vietnamienne, et puis là, voilà, bon, une pute en uniforme de pute.
Alors, est-ce que c'est moral, tout ça?
Qu'est-ce que tu veux dire par moral?
Justement, je pose la question. Qu'est-ce que c'est de la moralité pour François Cavana?
La morale, ça n'existe pas.
C'est une manière de se conduire.
Mon Dieu, il n'y a pas de critères moraux, c'est évident. Il y a ce qui peut être dangereux, il y a ce qui peut faire du mal, et puis c'est tout.
Alors, est-ce la tendresse qui vous pousse tous à vous moquer de tout?
Bon, c'est surtout la rage, tu sais, un peu le désespoir, non pas le désespoir, mais les bras nous en tombent, si tu vois bien. À chaque fois, c'est les mêmes conneries, à chaque fois, ils font la même chose. Tu sais, ça m'a un peu marre, quoi. Comment te dire, étant donné un arabe et un flic, tu fais ce qui va se passer. Ce sera à chaque fois pareil, enfin un flic qui fait un petit flic anticonformiste qui tapera pas dessus. C'est... Oh, c'est fatigant. Le coup du TLM, le coup, enfin tous les machins qu'on a vu succéder, et impersonnel à peu près, mais au point qu'il y ait des sujets, moi qui d'avance, je me dis, merde, que j'ai en parlé. Avant, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais non, c'était pas le mec, c'était Moussa, c'est la semaine d'avant, c'était un autre. Mais oui, mais un, toutes les semaines, c'est le même scénario, le même truc, les mêmes types étant en présence, on se produit les mêmes choses. Ce qu'on devient l'arçon.
Et vous, François Cavana, vous pourriez appartenir à un parti politique?
Bon, je pense que le parti à qui je pourrais appartenir n'existe pas. Non.
Alors, quel serait ce parti? C'est un parti utopiste?
Ah bah, évidemment. Mais tout parti est utopiste. Si c'est tout parti se propose de changer les choses pour que ça aille mieux. Alors, s'il y a un parti qui proclame qu'il se bat pour que tout aille plus mal, je ne le connais pas encore. Ce sera assez original. Enfin, puisqu'il se bat pour que ça aille mieux, c'est donc qu'ils sont utopistes, puisque l'utopie, c'est le pays où tout va bien. Ce qui me fait rire, c'est quand je vois les partis politiques au nom du réalisme engueuler leurs adversaires en les traitant d'utopistes. C'est marrant, alors pourquoi sont-ils un parti? Je suis là-dedans, alors. Le réaliste ne s'inscrit pas à un parti, reste chez lui.
Enfin, vous attaquez tout le monde, mais s'il fallait caresser quelqu'un, ce serait qui?
C'est heureux. Ah, je vois pas. Il y a des gens que j'aime bien, tu sais.
Oh, beaucoup, sans doute.
Bien sûr.
François Cavana, on vous verrait à la télévision, tel que je vous vois moi en face de moi, on ferait plein de tendresse. Parce que ce visage qui appelle l'amitié, c'est un visage façon Brassens, un visage où se passe des choses et on comprend.
Une bonne gueule, quoi.
Oui, une bonne gueule, mais avec à l'intérieur sans doute des choses. Et parfois, c'est dommage qu'on ne voit pas ce que l'on entend. C'est vrai que ça explique, il y a des rides, il y a des cheveux qui expliquent des choses, et des moustaches. Les moustaches, c'est d'une certaine manière, des moustaches gauloises.
Ah oui, mais les moustaches, tu sais, c'est travaillé, ça.
Alors, justement, est-ce que tout le reste est travaillé?
Ah, le reste, non.
Bon, alors, il y a ce titre, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu. C'est travaillé comme titre.
Oh, même pas. Alors là, c'est vraiment sous les circonstances. Tu sais, avant, je travaillais beaucoup, je cherchais tout, et maintenant, j'ai compris que ça servait à rien. Regarde, un exemple. Enfant, laissez sécher Charlie Hebdo, c'est le titre lui-même. Il y avait d'abord Harakiri, mensuel, je te l'ai dit. Journal d'humour, comme tu l'as dit tout à l'heure, anticonformiste, enfin, ça c'est pas de faute. Puis, un jour, on s'est dit, on va faire un hebdo. Le contact mensuel avec les gens, pour ça, on voulait suivre l'événement, on l'a appelé Harakiri Hebdo, tout naturellement. Pendant près de 2 ans, Harakiri Hebdo a vécu, s'est développé, ça marchait pas mal du tout. Et puis, un beau jour, s'est présenté un événement, devant lequel on a réagi comme devant n'importe quel événement d'importance. Non, 2 événements successifs, je suis obligé de faire. Il y a eu une semaine, un incendie terrible dans un bal à Saint-Laurent-du-Pont. Il y a eu 140 morts, je crois, quelque chose comme ça.
C'est tragique.
Alors, tu sais que tous les journaux ont titré « Bal tragique à Saint-Laurent-du-Pont », 30 morts. Nous, on a titré la même chose, « Bal tragique c'est ça, c'est le truc tout cramé, et puis pendant l'incendie, le bal continue, enfin un machin comme ça, tu sais. La semaine d'après, arrive un autre événement, c'était la mort du général de Gaulle. Ah, ça nous est arrivé juste le jour du bouclage de la veille, je crois, alors, comme une bombe. Je ne sais plus qui a lâché l'idée, ça pourrait bien être le Choron. ça lui ressemble bien. Mais tu sais, les idées chez nous ont ça de propre, c'est qu'au bout de quelques temps, si elles sont consignées, ça vu qu'ils nous arrachent.
Elles appartiennent à tous.
Ouais, même quand elles sont signées, d'ailleurs, parce qu'il peut très bien se faire que ce soit un gars qui est un fait sorti par un autre, hein, qu'est-ce qu'on cherche. Bon. Cette idée terrible, balle tragique à Colombey, un mort. Je suis sûr, mais devant ça, on est resté ébloui. Ébloui, on s'est presque tous mis à genoux. On a plus que... Alors bon, alors on n'a pas pu se retenir de faire ça. Une couverture en cadre noir, et puis simplement un texte sans dessin au milieu, ben, le tragique a commandé un mort. Et à notre grande surprise, on a eu des ennuis très graves pour ça.
Pourquoi votre grande surprise?
Et parce que ça ne porte, ça ne donne prise légalement à rien. Et d'ailleurs, il a fallu se donner beaucoup de mal pour arriver à nous inculper. On ne nous a pas inculpés pour ça. C'est inattaquable. On ne calomniait pas, on ne diffamait pas, il n'y avait pas attaque à chef de l'État, il était mort, tu vois. Il y avait peut-être... Non, il n'y avait rien. Bon. Alors, M. Marcelin, qui s'occupait de ces choses à l'époque, jetait des tas de gens sur la feuille, leur a fait éplucher la collection, ils ont réussi à trouver trois petits dessins tout au long de la collection, dans lesquels il y avait, je crois, des quéquettes, tu sais, même innocentes. Tout à fait, c'est des dessins de gilets, mais un cabuche, quoi. Où on voyait des petits enfants, des gens qui mon Dieu, se trouvaient dans la poêle, avoir une étiquette à l'air. Dans une position même pas arrogante. Alors, on nous a immédiatement interdit, pour pornographie, interdit à l'affichage, pour pornographie, excitant de ces trous machins qu'on avait, hein. Ça n'avait rien à voir, bien sûr, avec la fameuse couverture. Bien sûr. Et ça fait un beau soleil. Le titre étant interdit, ne peut absolument plus paraître, c'est sous peine de choses très graves, de prison. Mais on a dû dans la nuit même se débrouiller, improviser, on a fait un très gros risque. Parce que il est interdit de faire reparaître sous quelque forme que soit un journal interdit. Tu vois, c'est suffisamment vague et suffisamment terrible en même temps pour qu'on ne puisse pas y échapper. Ah non, allez, on prend le risque, tant pis, on peut pas crever comme ça, on s'en fout, nous, la série, c'est notre vie, on a tout mis là-dedans, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant? Et on avait, depuis peu, lancé un journal, un mensuel, un autre, qui était celui-là voué aux bandes dessinées, mais aux bandes dessinées tout à fait, je dirais anodines si tu veux. Vraiment, c'est la bande dessinée classique, où on admettait des torsos plus qu'elles soient bonnes. Ça s'appelait Charlie. Charlie, du nom d'un héros d'une bande américaine, Charlie Brown, épinette, que tout le monde connaît. Ce jour-là, ça s'appelait Charlie, il fallait trouver un truc en vitesse, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on s'en fout, on va pas se casser la tête, on s'est cassé la tête pour trouver un titre, un titre qui était formidable, ce qu'il voulait dire, tout ce qu'il voulait dire, journal bête et méchant.
C'était nous annoncer la couleur.
Ça se trouve pas comme ça. On était très fier, très content. Finalement, on le fout en l'air. Alors pourquoi se casser la tête? Allez, on appelle ça Charlie Hebdo et puis vas-y, voilà le truc de la galère. Alors là, Charlie Hebdo sortait.
Sans ennui.
Ben, sans ennui, ça n'a pas été comme ça. Heureusement, la presse a bien marché. Tous les confrères ont gueulé, ont protesté et... Monsieur Marcelin a annoncé qu'il autorisait la parution de Harakiri Hebdo. Mais il continuait à l'interdire aux mineurs de 18 ans. Je ne vais pas t'expliquer toute la technique. Pratiquement, c'était déjà arrivé là. Ça continuait l'interdiction dans sa totalité, en réalité. Donc, on s'est cramponné à Charlie Hebdo et on n'a pas eu l'ennui.
Dans d'autres pays, cette liberté vous aurait été donnée ou pas? Cette liberté de reparaître, enfin, en tout cas de ne pas être une nouvelle fois interdit.
Dans d'autres pays, on n'aurait pas été interdit d'abord. Ouais. Parce que ça, c'est une spécialité bien française. Ce n'est pas de la censure, c'est bien pire.
Je crois que ça venait quand même après un événement qui avait sans doute dû frapper des gens. C'était la mort du général de Gaulle.
Ah, mais...
C'était sur un cas précis.
D'accord, tu m'as rigolé devant un cadavre.
Mais il n'y a pas d'interdiction.
Ça ne compte pas, ça tombe pas sur le coup de la loi.
Est-ce que vous êtes gaulliste?
Est-ce que je suis quoi?
Vous étiez gaulliste?
Oh mon Dieu.
Mais vous pourriez appartenir, pas à un parti, mais à quelqu'un, être admiratif de quelqu'un.
Non, absolument pas.
De personne?
Non, absolument pas. Et surtout pas de la Gaulle. Il ne faut pas que je sois anti-gaulliste. Enfin, c'est pas ce que le gaulliste, ce que le de Gaulle. Enfin, là, c'est je ne veux pas faire de politique.
Vous devez en faire de temps en temps quand même.
Qu'est-ce que tu as pu faire de la politique?
S'intéresser.
Parler de choses qui sont, parler d'événements de grande importance qui sont du domaine des choses politiques. Alors, bien sûr.
Parler de la vie.
Si je parle de quoi, par exemple? Si je parle de l'homosexualité, ça veut pas dire que je la pratique. Je parle de choses qui se trouvent là, quoi.
Je disais tout à l'heure que tu avais une bonne tête. Et j'ai l'impression que lorsque tu prononces les gros mots, ou ce qu'on appelait autrefois les gros mots, ces gros mots ne correspondent pas, justement, pour le compte des gens, à la tête que tu as.
Tu crois?
Alors, est-ce que tu vous forcez pour dire des gros mots?
Oh non, oh sûrement pas. Oh sûrement pas. Simplement, je me suis trop longtemps tenu.
Pourquoi l'enfance? Une enfance très disciplinée, celle-là?
Ah oui, 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 oui.
Dans une famille...
Dans une famille très stricte, mes parents étaient... Bon, il faut vraiment que je développe un peu. Bon, mon père était un maçon, un immigré italien. Tu vois, semblable à ce qu'elle peut être. À l'époque, c'était même pas semblable aux Portugais, plutôt aux Arabes, tu vois, c'était l'Italien. Il avait épousé une Française, une Morvandelle, des gens très, très, très simples, très pauvres même, bon, qui étaient très stricts en même temps, tu vois. Des paysans, noirs, sombres. Mon père était rigolo, mais enfin, si tu veux, très austère, en mœurs, morale, la conduite et tout ça. Catéchisme, les choses qui se font, les choses qui ne se font pas, à table, on met pas les coudes sur la table, on tient très loin, j'ai jamais dit merde à ma mère, je crois qu'elle en serait morte, j'en serais mort. Enfin,
vous ne lui aurez jamais dit de toute manière, mais vous ne lui diriez pas aujourd'hui.
Même aujourd'hui. C'est
tout à fait franc.
Même aujourd'hui, il n'a pas parlé. Ouh là là, disons, qu'est-ce que je prendrais?
Non, parce que vous n'auriez pas envie de lui dire.
Mais je ne voudrais pas lui dire merde pour lui dire... comme pour une insulte, c'est comme un insulte si tu veux, mais je ne pourrais pas dire par exemple devant, et merde maman, après tout, qu'est-ce qu'on en affiche? Je ne pourrais pas lui dire ça. Ça serait le drame, hein, à ce point-là. Alors, je suppose que c'est pas spécial, tout le monde a à peu près été élevé comme ça.
Vous avez des enfants?
Ah oui.
Alors, les gros mots que vous vous permettez, vous leur permettez?
Ben oui, parce que quand ils sont venus au monde, j'avais déjà dépassé l'âge, je me retenais à en dire, tu vois, alors... Oui, ils sont même assez grossiers.
Qu'est-ce que c'est la grossièreté?
Ça n'existe pas, non, non plus. La grossièreté.
Il faut pas confondre la grossièreté et vulgarité. Il y a des gens bien élevés qui sont vulgaires.
Bien sûr.
Des gens qui disent des gros mots.
La vulgarité ne consiste pas à dire des gros mots. La vulgarité, c'est une attitude. Ça dépend d'autre chose qui disait plus loin. La vulgarité est une conséquence, c'est l'émergence de la bêtise.
Et Cavana, lorsque vous frappez dans Harakiri, lorsque vous frappez dans Charlie Hebdo, vous vous moquez, c'est vrai, d'abord il faut parler de moquerie avant de parler de méchanceté, mais à certains moments, vous n'avez pas envie de régler les comptes. Alors là, vous deviendriez subitement très méchant.
Mais tu vois, il y a une chose qui m'est absolument étrangère, c'est la vengeance. Je dirais même que pour moi, même la justice s'arrête. La notion de réparation, oui. La notion d'interdire de faire le mal si on peut, oui. Mais alors, la vengeance, c'est-à-dire un type étant mort ou un type bien dommage, poursuivre l'autre uniquement parce que ça ne peut pas rester comme ça, il n'est pas permis. Et ça, c'est un tort chez moi, c'est un manque de combativité, j'en sais rien, je ne passe pas. Alors quand il règle des comptes, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Vengeance. Mais vous avez dit non, je ne me vengerai
non.
Jamais.
On se bat quand c'est utile. On ne se bat ni par panache, ni pour l'honneur, ni par vengeance. C'est absolument idiot, inefficace et meurtrier.
Alors l'autre question que posent beaucoup de gens, faut-il tout dire?
Bien sûr.
Même le pire.
Mais surtout le pire. Si c'est de celui-là qu'il faut que les gens sachent. Enfin, tout dire sauf le pire.
Et si on fait mal à quelqu'un,
évidemment,
si on le conduit au suicide,
et comment ferait-on ça?
Parce qu'on a dit des choses ou vraies ou inexactes. Et qu'en tout cas, ces choses ont touché. Alors,
si on sait qu'on peut obtenir ce résultat-là, alors. Enfin, disons que moi, je m'abstiendrai.
C'est une question que vous vous posez parfois.
Oui. Mais tu sais, c'est pas un journal de polémique.
Non.
Justement, je ne crois pas que ça puisse avoir ses conséquences, parce que justement, ça ne s'attaque pas aux personnes. Ou quand ça s'attaque aux personnes, ça fera un coup d'humeur. Mais non pas, si par exemple, pendant si longtemps, on a fumé contre Marcelin et maintenant contre Poniatowski, qui sont deux têtes de Turcs parmi d'autres, ce n'est pas contre leur personne.
Pour deux ministres de l'Intérieur.
C'est parce qu'ils font, oh, ben, il en faut aussi, ça, je suppose. Mais c'est la façon dont ils, conçoivent leur ministère, dont ils l'appliquent. C'est les actes de Poniatowski qui nous foutent en colère, c'est pas la personne de Poniatowski, tu vois.
Et lorsque je regarde un livre que vous n'avez pas encore et qui est de vous, François Cavanna, et qui paraît dans la collection 10-18 sous le titre « Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu », il y a inscrit dessous « Harakiri Hebdo 1969 », je sais qu'il aurait fallu mettre « Chronique d'Harakiri ». Et en effet, il y a ces chroniques, et on voit la première chronique qui est datée du 3 février 69 d'ailleurs. Et le titre c'est « Biafra, ça va mieux, on l'a insonorisé ». Le titre veut tout dire, et ce qui est pire, c'est que ça dure, c'est toujours à son arrivée, on n'en parle pas.
Oui.
Il y a des choses comme ça dont on ne parle plus.
Pas ce Biafra, tu vas dire autre chose. Hier, j'étais dans une réflexion qui m'est venue à soir quand on était en réunion, un journal, un site de journal nous pensionnait, j'ouvre Le Monde au hasard, puis je vois une grosse carte de Chypre. Ah, Chypre, ah oui, Chypre, tiens, mais c'est vrai. Des semaines qu'on n'a pas entendu parler de Chypre. Puis c'est une carte avec une zone nord, une zone sud, avec Chypre là-bas. Ah oui, on est branché sur le Vietnam, sur l'Italie, sur le Portugal. Mais pendant ce temps-là, là-bas, ça continue. Bon, je crois que les Turcs ne sont pas des gens plus mauvais que d'autres. Les Grecs non plus, ce sont des gens, comme tout le monde. Hein? N'empêche que là-bas, ils vont se passer de ces massacres, de ces règlements de compte, de ces petites vengeances, de ces dépossessions, de ces déportations.
Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a pas et le bien et le mal, que le bien et le mal sont partout. Parce que là, il y a également, parlant du Moyen-Orient, vous avez la solution, et vous écrivez le Proche-Orient, quel paradis s'il n'y avait pas les Arabes, et le monde, comme il y ferait bon vivre s'il n'y avait pas les Juifs. Alors on va vous traiter d'anti-arabes et d'antisémites.
Mais ça, c'est déjà fait.
Vous l'acceptez.
Mais non, c'est pas bon sens, c'est parce que j'y fasse. Le type qui me fout un coup de bâton sur la tête, il me demande pas s'ils acceptent, il me l'a fichu. Et pourquoi les Arabes ont-ils décidé qu'on était anti-arabes? Certains Arabes. Mais hélas, le plus bête d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui dirigent, comme dans tous les pays, la majorité silencieuse et ceux qui en émanent, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui ont su lui parler, sont d'un niveau qui fait peur, quoi. Alors, bon, les Arabes, en général, décident qu'on est anti-arabes, les Juifs sont persuadés qu'on est antisémites, tu veux que je te dise, dans combien de pays on est interdit?
Charlie Hebdo, voilà.
Charlie Hebdo. Harakiri, à peu près aussi. Charlie Hebdo davantage, mais ça se recoupe en général. Eh bien, d'abord, tous les pays arabes. À peu près, quoi. Donc, peut-être au Liban, je crois que c'est... Mais... L'un après l'autre, ils se sont fermés. En Israël. En Russie.
Dans
toutes les républiques populaires. En Chine, bien sûr.
Que vous reprochez?
Ça, je me demande. On a même eu les honneurs de deux ou trois éditoriaux chinois de la Pravda qui nous présentaient comme l'émanation suprême de la pourriture occidentale.
Les fascistes.
En même temps, des décadents. Les décadents, l'Occident qui au terme de la décadence et de la... ne sachant plus quoi faire pour s'exciter les papilles, tu vois la Rome impériale, hein, tu comptes toujours autour de quelques schémas classiques qu'on puisse dans son vieux fond culturel, alors ils ont trouvé ça, une espèce de Rome impériale qui crève dans le stuf en train de manger des langues de rossignol dans des orgies compliquées. Ben c'est ça l'Occident. Alors Harakiri, oh oui, l'Occident qui se moque de lui, mais qui chine même sur la figure, qui gna gna gna. Tu vois, bon, il paraît que ça prend. Alors, il y a des articles, mais extrêmement vaginaux, méchants.
Voilà. Alors on peut dire que la France est le pays de la grande liberté.
Ben oui. Relativement, c'est triste.
Il faut pas le dire avec tristesse.
Je le dis avec tristesse parce que si la liberté qu'on a en France Et pourtant, ce qui se fait mieux en cette liberté par rapport à ce qu'il y a ailleurs, c'est quand même... Oui. C'est quand même assez décourageant.
François Cavanna, vous êtes interdit, sans doute, et c'est vrai dans beaucoup de pays, mais il faut bien reconnaître aussi qu'une femme, qui s'appelle Françoise Giroud, a dit une fois que Charlie Hebdo, c'était la grande révolution de la presse, c'était ce qu'on a fait, de vraiment nouveau.
C'est vrai. J'étais très épaté qu'elle dise ça.
Ça vous fait plaisir, là.
Ah, bien sûr. Non, pas parce que
je pense que François... Mais aux actes de gentillesse. Quoi que vous vous méfiez un peu quand même, vous êtes trop gentil avec vous.
Ben écoute, si c'est un mec de gentillesse, alors là non, je suis pas content.
Ouais. C'est une vérité.
Je pense que c'est pas que ça, je pense que ce n'est même pas du tout ça. Je pense que la mine est dedans, et puis elle dit, tiens, c'est pas possible. Et dans un élan de plaisir, elle a dit ça.
Ça, vous devriez quand même avoir un peu honte de vous, François Cavanna, parce que vous fichez de la politique, vous fichez du marché commun, vous fichez de tout. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, j'ai peut-être un peu honte. Et vous avez une envie, c'est vivre. Et vivre, alors là, ça occupe. Hein.
Ça occupe toutes les vies, mais quelqu'un l'a déjà dit.
Ça occupe beaucoup d'instants, en tout cas.
Là, pour nous, je veux dire, nous qui faisons Charlie Hebdo, qui faisons aussi Arakiri, qui faisons aussi Charlie Mansell, et puis qui sortons...
Un vrai groupe de presse, quoi.
Un vrai groupe de presse, oui, c'est vrai.
En fait, vous devenez ce que vous condamnez. Et si vous deveniez un jour de grand capitaliste, ce que vous êtes un peu déjà.
Même pas,
non. Je veux dire, vous avez un groupe installé.
On est salariés, tu sais.
Ça marche, en plus.
Sa vie. Sa vie. Oui, non, vraiment, tu prends un air ironique, là, mais oui, ça dit, c'est tout. Vous pouvez oublier qu'on manque de ce nerf qui est de la presse, qui est la publicité. On n'en passe pas du tout.
Exact.
Mais ça change terriblement le problème.
Mais ça change tout le problème.
Et comme on est des marginaux...
Ah, vous la refusez, la publicité?
Oui. Oui, oui.
Comme le canard enchaîné.
C'est ça.
Et comme... si un jour, vous... deviez accepter la publicité parce que vous êtes sur le point de tomber. Sinon, vous passeriez tomber.
Oui. Ah oui. Ah oui, certes, oui.
Plutôt la liberté que
cet emprisonnement. C'est pas seulement la liberté, tu sais, c'est... Moi, je suis persuadé qu'on peut gagner sa vie en journaliste, qu'on peut le faire sans... publicité. On peut. Seulement, tu sais comment on fait, nous ? On est en tout. Combien on est ? Personnel administratif et technique compris, si on est 12, c'est le bout du monde, tu vois.
Pour un journal qui tire à combien ?
Pour 3 journaux.
Oui.
Un journal qui tire à... Un hebdo doit tirer à 140 000 actuellement.
Très gros tirage.
Non, c'est pas fait
aussi. Si,
pour un marginal, c'est bien.
Oui, pour un marginal.
Pour un journal, parmi les autres journaux, les autres organes de presse, on est un des petits, on est un des tout petits. Et sinon, c'est pourquoi c'est si difficile de boucler. On est petit, on a un petit tirage et on n'a pas de publicité. Et les mensuels, eux aussi, je navigue dans les tirages de cet ordre, tu vois. Donc, tout ça est très modeste. Seulement, on est très peu. Et on fait tout. Quand on a lancé un nouveau journal, on le faisait avec ce qu'on était. On n'arrivait déjà pas à boucler le premier. Comme je disais, on en fait un deuxième parce qu'on avait envie de le faire. Oh, tu sais, ça se fait si simplement. Une trouille, surtout moi, je ne travaillais pas sur la comète. Et si on avait essayé, parce qu'on est trop peu, et qu'on l'a dit, alors c'est peut-être ça dont je suis plus fier, et dont peu de personnes se rendent compte, c'est la façon dont sont faits, dont sont conçus les journaux. Personne ne se rend compte. Ce sont des... tableau d'affichage, des pages, chacun a sa page à faire. Il se démerde chez lui, tout seul dans son coin. On ne se concerte pas. Parfois, on se recoupe. On est deux ou trois à faire le même sujet.
Hein? Il n'y a pas de chef.
Ah non?
C'est vous le chef, quand même.
Ben encore, on va jouer sur les mots. Disons que je suis le coordinateur. Ouais. Mais vraiment, je ne suis que ça, tu sais.
Okay.
Je ne leur dis pas, bon, soit tu fais ça, soit tu parles de ça, soit tu parles de ça, ça fait ça, être un chef. Oh, ça ne correspond pas à mon tempérament, mais coordonner, j'aime bien. Tu vois, mettre en forme le boulot.
Alors là, vous êtes en communauté, or, vous, François Cavanna, vous n'aimez pas tellement, et j'ai cru le remarquer dans tout ce que vous avez écrit, l'aventure collective. Vous ne croyez qu'à l'aventure solitaire, c'est la seule aventure qui permette de choisir. Alors, comment pouvez-vous sortir de cette contradiction?
Mais, je viens de te le dire, c'est que l'œuvre commune, c'est le journal. Dans notre cas. Bon. Mais le journal, c'est un bateau situé à l'intérieur duquel chacun fait son boulot, chacun sait ce qu'il a à faire et le fait tout seul. Quand tu dis quand les pages arrivent, on n'a plus qu'à les assembler, ils laissent tout ce qu'on fait le mardi ensemble. C'est le seul travail qui devait être fait en commun, c'est la recherche de la couverture, de bouche-tout, de photos, de choses pour. Voilà, et la mise en page. Alors la mise en page, on équipe avec deux gars qu'on a, qui se sont formés chez nous d'ailleurs, et qui maintenant se débrouillent presque entièrement sans moi, qui fait qu'ils nagent tout seul. Alors, au début, je faisais la mise en page, je faisais tout, et on faisait tout. Si j'ai lâché le dessin pour mettre à écrire, par exemple, c'est parce qu'on s'est aperçu que quand un canard, il n'y avait pas beaucoup de textes et que c'était vite feuilleté. Bon, mais il fallait un gars pour s'atteler à faire de l'écrit, tu vois. Il fallait du texte.
Mais étant passé du dessin à l'écriture, vous pourriez maintenant aller de l'écriture à la peinture.
Mais je ne vois pas pourquoi j'irais et pourquoi pour tomber la coulisse. Vous avez juste
un... Oh, c'est quand même un peu le même domaine, c'est pas le trombone.
La peinture?
Oui.
Bon, j'en ai fait de temps en temps, comme tout le monde, tu sais, en vacances, la petite aquarelle, j'aime bien ça. Mais enfin, je crois pas que... je crois pas que j'aurais jamais fait grand-chose.
Mais je m'aperçois quand même, Cavanin, que vous travaillez beaucoup. Parce que, bon, il y a cette série dans 18, que, bon, ça, ce sont vos chroniques, vous les avez retrouvées, vous vous êtes sans doute demandé, vont-elles tenir le coup? Et elles tiennent le coup. C'est quand même une bonne chronique des années qui viennent de se passer. Et puis, il y a le nouvel album. J'en parlais tout à l'heure, l'édition du Square.
L'édition du Square, c'est nous.
Encore en plus, une édition.
Oui.
Alors, trois journaux, une édition. Lorsque je disais groupe de presse, tout à l'heure, je ne me trompais pas.
Oui, bien sûr.
Alors là, c'est le con se surpasse. Bon, on disait... Le con, c'est l'homme, il se surpasse dans les mauvaises intentions. C'est ce que vous avez voulu sans
doute. Oh, même pas.
Non.
Il surpasse les hommes en se croisant les conneries, c'est tout. Les conneries, c'est un peu tout. Ça trouve tout ce que ce mot passe par tout court. Hein.
Et à la première page, il y a un mot, tout seul. Et ce mot, c'est entrée. On s'aperçoit tout de suite que vous êtes à combien. Vous avez envie qu'on vienne avec vous.
Écoute, un bouquin est toujours une introduction ou une préface, quelque chose, pour faire sérieux. Il faut faire sérieux, on va commencer tout de suite comme ça. Alors, j'ai mis en haut d'une page blanche, j'ai mis introduction. Si je dis qu'est-ce que je pourrais mettre dans l'introduction, entrée. Mais hop, c'est une boutade. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est pas plus.
Et tous les départs de papier pourraient donner lieu à discussion. Par exemple, dans les premiers temps, les hommes étaient tous très forts et très sains. Déjà, il y a une contrariété dans les premiers temps. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout forts, ils ne sont plus du tout sains. Et vous vous mettez vous-même en première ligne.
Là, tu vois, je me moque de moi-même, parce que... un peu de moi-même et beaucoup d'autres qui sont moins lucides que moi et qui se laissent prendre au piège de l'âge d'or. Tu sais, les fameux lointains passés où tout allait bien, tout était... écologique, entre
guillemets. Parce que ça commençait. La vie au grand air, on mangeait les sardines.
Voilà, la sélection naturelle faisait que seuls les plus forts seraient, et que l'homme, à ce moment-là, était...
La nature était gaillarde.
C'est ça.
Mais les choses ont à ce point changé. On le voit. C'est une terre en ciment, que l'on nous a fait. Oui, alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Parce que vous ne voulez pas aller à la campagne, mais vous dites, je suis heureux qu'il y ait une campagne parce que je sais que ça existe.
Oui. C'est un peu... La campagne, on peut quand même dire, elle n'est pas tellement loin. Et je vis finalement un pied à la campagne. J'ai quand même un orteil déjà dans l'herbe, tu vois. Je suis en banlieue. Ma banlieue commence à être boulottée, d'ailleurs, mais enfin... Mais, je crois d'ailleurs qu'avant moi, un autre type l'a dit, c'était Romain Gary qui disait... Je verrai peut-être jamais d'éléphant, mais je suis content de savoir que quelque part ils existent. Oui. Et je veux pas qu'on les tue. Hein? Peut-être bien les racines d'ici, il va dire. C'est moi, je crois un mot. Oui, c'est exactement ça. Que j'en ai à foutre de voir des baleines, même si je ne vois jamais la mer de ma vie.
Mais ça existe.
Je n'aime pas tellement y aller à la mer, tu vois. Je n'aime pas beaucoup voyager. Ça m'emmerde. J'aime pas ça, ça me perturbe. Mais qu'est-ce que je suis content de savoir qu'elle existe. Et quand je l'entreaperçois une fois, je crois que j'en prends autant que d'autres en prennent quand ils sont vivants devant. Tu vois, tout m'arrive, tout afflue, la totalité de ce qui peut être pris dans la mer m'arrive sur le cigare à ce moment-là. Et puis je rentre, et puis je fais des années sans la revoir. La montagne, je n'ai jamais vu, la vraie montagne. Jamais, ni l'hiver, ni l'été. Alors les gars, un peu de montagne à vache, qui peut être ravi, je suis content de savoir que ça existe. Ce qui m'emmerde, c'est de savoir que maintenant ça existe en tant que piste de ski, tu vois. Alors ça me fait mal. Et c'est un peu de moi que je me moque quand je rêve de l'Arsdorf où ceci n'existait pas. Mais je pense que l'Arsdorf, c'est devant nous qu'il est, s'il doit être un jour, un Arsdorf où ceci n'existera plus, où les gens n'auront pas besoin de faire... Ils aimeront la montagne, ils iront même, mais ils n'iront pas comme on va au Luna Park ou comme on va sur Jeju, sur le Tartsfort du Square, avec des toboggans, avec des remontes de pente, avec des zinzins, avec l'orchestre pour la nuit, avec la bouffe... Il faudrait qu'ils l'aiment en tant que montagne, non pas en tant que
décor. Pour vous, ça n'est pas la fête tout ça.
Oh non, c'est triste.
Et alors lorsque vous dites qu'il faut revenir aux âges farouches, vous rêvez encore.
Ah, vas-y, pour ça.
Si, il faut revenir.
Oui, il faut revenir aux âges farouches.
Aux âges farouches. Enfin, en ce temps-là, la terre était un jardin,
il
était au milieu d'un jardin. Hein,
je rigole.
Peut-être pas tellement.
C'est sûr que si.
Oui.
C'est sûr que si. Si tu veux, je voudrais bien que ce soit vrai qu'elle ait été un jardin un jour. Qu'est-ce que j'aimerais que ça soit vrai, ça, que l'ange d'or ait existé, qu'il y ait une belle humanité.
Je crois d'ailleurs.
Que Rousseau ait raison. Je voudrais. Mais je sais que c'est pas vrai.
L'homme, il est né bon. C'était une fleur.
Il est né homme, c'est tout. Il est né, le chien, il est né bon. Et pour le chien, pour n'importe qui, le problème du bon ou du mauvais ne se pose pas pour l'homme non plus. Il est comme il est.
Enfin, Dieu avait fait l'homme à son image, mais en ce temps-là, l'image de Dieu était plus belle.
Oui.
Attention, dixit Cavana.
Oui. Dieu avait fait l'homme à son image, mais en ce temps-là, l'image de Dieu était plus belle.
Vous êtes croyant?
C'est pas... Cette phrase est une réponse, je crois.
Non, ça n'est pas toujours une réponse, une phrase. C'est parfois une interrogation. Alors peut-on s'attaquer à Dieu, par exemple, dans Charlie Hebdo?
Et pourquoi Dieu serait-il à l'abri?
Peut-on s'attaquer à une croyance?
Ah ben, comment donc? C'est d'abord à ça qu'il faut s'attaquer. C'est ça qu'on crève.
De trop croire?
Oh, bien sûr, de croire. On ne doit pas croire. Il ne faut jamais croire. C'est un mot nocif. Croire est un mot aussi nocif. C'est un mot. Croire décrit une attitude aussi mauvaise que tuer, plus mauvaise que mentir, par exemple. Mentir peut parfois être salvateur. Croire jamais. Croire est toujours nocif.
Lorsque vous dites que l'homme invente quelque chose de mieux que le bonheur, qu'est-ce que c'est ce quelque chose de mieux? Parce que l'homme invente, là.
Je ne me rappelle plus.
Il
y a le bouquin sous les yeux.
Ah non, je ne l'ai pas là, mais...
L'homme invente quelque chose de mieux que le bonheur, et c'était pas l'ordre. C'est bien la propriété.
Non, la propriété, c'est qu'elle fait des clôtures. L'homme...
Tu sais, j'écris des trucs, hein, et puis je les oublie. Au moment où je les écris, je ne les écris pas par-dessous la jambe, crois-le bien, mais c'est un événement. Nous, on a raclé, comme encore une fois, on est tellement peu qu'on pond, on pond, on pond, on pond. C'est épouvantable, comme des poules dans les bazars industriels, là, tu sais. Le ston, poc, 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 poc.
Vous avez peur de vous relire? Parce que parfois, vous dites des
oui, choses, j'ai peur.
Vous dites, je l'ai écrit.
Ah,
et je me suis laissé aller.
Oui. Tu vois,
parce qu'il y a quand même chez vous l'incertitude, le doute, l'inquiétude. Il y a plus que ça, non?
Pour la plupart du temps, quand je suis obligé de me relire pour une cause ou une autre, par exemple pour corriger les épreuves d'un bouquin comme celui-là, que je les corrige, j'ai la trouille. Et la plupart du temps, j'ai raison d'avoir la trouille, parce que je prends un de ces coups de cafard, je me dis, merde, j'ai pu être aussi con, j'étais niais, oulalalala, vraiment, c'est... Et de temps en temps, on va savoir pourquoi j'ai dit, mais tiens, mais je suis bon dans ça, tu vois. C'est beaucoup plus rare. Mais alors ça vient le fait de ce que j'ai un tempérament plutôt dépressif.
Et puis un jour, l'homme a rencontré la gloire. Et l'homme, à ce moment-là, c'est peut-être Cavana.
Bon, ouais, mais la gloire, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Et puis d'abord, je suis plus grand, je veux la gloire, c'est faire plaisir.
C'est quel âge?
Bah, 50, ça fait.
C'est Dieu?
Je ne sais pas si c'est vieux dans l'absolu, en tout cas, je crois que la gloire, il faut que ça arrive trop jeune. Parce que Non, mais non, je n'étais pas un tempérament aimé ça. Non, je n'aimais pas tellement. Je me rappelle bien, je me suis lancé dans le dessin, dans le dessin de presse, vraiment pour avoir un métier, c'est vérité, un métier où, en peu de temps, on peut travailler en travaillant très très fort, on gagne son mois. Là, je l'ai ça en tête, hein, c'était une connerie complète. Les dessinateurs travaillaient deux fois plus que les ouvriers en usine. J'ai fait les deux, j'avais fait deux autres métiers. Mais enfin, j'avais ça en tête. Moi, je me disais, tu travailles comme un fou au début de la semaine, après ça, tu travailles deux jours et puis t'as la semaine à toi.
Mais oui, ça vous fait quand même plaisir d'être connu, ça, Karen. Non,
ça me fait plaisir qu'on me lise et qu'on comprenne, tu vois. C'est surtout ça que je voudrais.
Alors, je vais vous dire une de vos dernières phrases, parce que, bien sûr, vous avez choisi des disques, nous n'avons pas passé un seul, vous avez raconté.
Oh, ben c'est vrai.
Vous avez choisi un disque de Brel, Les Taureaux, vous avez choisi un disque de France, Les Frères Jacques, de Francisco, Le Général à vendre.
Oui.
Ce sera pour une autre fois. Et même Jésus, que ma joie demeure de Bach.
Ouais.
Oui. Alors, il y a ce mot de vous, en fait, cette phrase, l'intelligence, ça ne peut pas s'empêcher de fonctionner. On peut fonctionner de deux manières. On réfléchit ou on invente. Inventer sans réfléchir, c'est faire œuvre de... je n'ose pas dire le mot.
Œuvre de con, si je le dis.
Merci, Karana. Demain, un autre rendez-vous. Radio-Sure.